Alors, Roland Lève, vous signez un des papiers de ce dossier dans le monde diplomatique et vous êtes à la recherche des ressorts cachés du dynamisme chinois. Et vous nous apprenez, enfin, vous nous rappelez que la Chine, c'est un pays communiste avec un parti communiste qui est au pouvoir toujours.
Donc je dis exactement le contraire. Je pense que c'est justement pas un pays communiste et que les ressorts cachés, il faut aller les chercher là où ils sont, justement là où c'est moins évident. Enfin, c'est devenu évident aujourd'hui. Je pense que plus personne ne conteste l'importance du nationalisme. Mais ça a fait longtemps l'objet d'un débat et surtout on n'a pas vu à quel point c'était essentiel depuis longtemps, y compris avant 1949, c'est-à-dire avant l'arrivée au pouvoir des communistes, et que ça jouait de façon décisive sur les options et les choix que les dix communistes, c'est-à-dire en réalité les nationalistes révolutionnaires qu'étaient les communistes chinois, prenaient et les options qu'ils voulaient prendre pour l'avenir, c'est-à-dire pour la transformation du pays. Alors ce qui est tout à fait caractéristique, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'on ne peut pas comprendre, et c'est ça la question la plus délicate, le passage du maoïsme et de tout ce qu'on a dit et de ce qu'on croit savoir sur le maoïsme, c'est-à-dire jusqu'à la mort de Mao et les quelques années qui suivent, c'est-à-dire jusqu'à fin des années 70, aux 25 années qui ont suivi, si on ne comprend pas justement tous ces ressorts, et ces dynamiques du nationalisme, y compris sur l'élite dite communiste, c'est-à-dire faussement communiste, mais en réalité nationaliste moderniste, visant à une transformation du pays. Et je reviens sur ce qu'on vient de dire juste avant, ce n'est pas seulement que la Chine comptait comme un des pays les plus importants du monde, il y a une statistique qui est beaucoup plus frappante que ça. Bien sûr, c'est difficile de faire les calculs, mais on estime qu'au XVIIIe siècle, c'est-à-dire ce grand siècle chinois, eh bien, le niveau de vie par habitant de la Chine devait être parmi les plus élevés du monde et probablement presque ou proche ou peut-être même égal à celui de l'Angleterre. Or, au début des années 50, on le ramenait à un 30e ou un 50e de pays comme les États-Unis ou des pays développés. Autrement dit, ça montre le degré de recul, pour ne pas dire de déchéance et d'effondrement du pays. Et ça donne aussi l'idée de ce qu'était pour les révolutionnaires communistes, enfin avec des guillemets, avec beaucoup de guillemets, les objectifs qu'ils se donnaient, c'est-à-dire de faire rebondir la Chine à son niveau qui était celui, enfin à un niveau mondial, au niveau où ils pouvaient véritablement affronter les problèmes mondiaux et être sur la scène mondiale, puisque comme on sait, le pays a été pas très loin au 19e et surtout au début du 20e siècle de disparaître, d'être anéanti et d'être anéanti y compris dans sa continuité de civilisation. Or, c'était quand même une continuité sur 2000 ans. Mais ce qui est aussi important, c'est de comprendre que ce nationalisme, ils ont été l'importé d'Europe et de l'Occident en général. Ce n'est pas, comme on pense aujourd'hui, le patriotisme ou le nationalisme purement chinois, mais c'est quelque chose qui supposait une capacité et des nouvelles formes de mobilisation de la nation, ce qui n'était pas du tout dans la tradition chinoise, ni d'ailleurs dans aucune tradition en dehors de l'Europe. Et l'idée d'aller mobiliser la nation, et bien pour ça, il fallait toute une nouvelle idée, c'est l'idée du nationalisme moderne, et en particulier du nationalisme révolutionnaire porté par certains des formes du communisme. C'est aussi caractéristique pour le Vietnam que pour la Chine, et sans doute pour d'autres formes de régime dit communiste, d'aller mobiliser la nation, et d'aller aussi se chercher un modèle de développement qui permettait de rebondir sur la scène mondiale, de revenir à un niveau de puissance. Et au fond, ce qu'on discute aujourd'hui, c'est de savoir si la Chine est en train de réussir, si elle a déjà réussi, ou si elle réussira dans les prochaines décennies.
Réussir à devenir la première puissance mondiale.
Je ne sais pas s'ils ont vraiment l'idée de la première puissance mondiale, parce qu'ils en sont quand même encore loin, surtout si on regarde par habitant, et le niveau de vie réel en moyenne par habitant, et surtout celui des centaines de millions, des 8 ou 900 millions d'euros, on est très loin du compte, mais à l'échelle globale, c'est l'idée quand même de redevenir une puissance, non seulement au niveau régional, ça ils le sont, mais de redevenir une puissance mondiale qui compte, avec laquelle il faut pouvoir négocier, et ce qui veut dire se retrouver, et c'est un des grands débats aujourd'hui, une des grandes anxiétés de certains et un des grands espoirs d'autres, de se retrouver face à face avec les États-Unis, l'autre super puissance mondiale.